Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, il va falloir perdre l'habitude de dire la chancelière. L'Allemagne a officiellement un chancelier depuis ce matin. Le social-démocrate Olaf Scholz a prêté serment au Bundestag. L'Allemagne de ces prochaines années sera-t-elle réellement plus verte, plus à gauche, sera-t-elle plus proche de la France? Nous regarderons le programme avec le spécialiste Hans Stark. Je suis convaincu que nous pouvons passer Noël sereinement. Message d'Emmanuel Macron sur France Bleu en pleine cinquième vague de Covid. Le président à Vichy tout à l'heure au contact des Français avant l'étape dans cette ville qui évoque la Seconde Guerre mondiale. Message à l'adresse d'Éric Zemmour. Gardons-nous de manipuler l'histoire. La politique, c'est aussi la gauche qui ne décolle pas dans les sondages. L'unité est-elle encore possible? Dans ce journal également, les femmes qui se déclarent publiquement victimes de Nicolas Hulot et PPDA signent une tribune commune. 32 cas de variant Omicron en France. Quelle menace représente-t-il? Nous ferons le point. Et puis Lille, en route vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions de football. Il suffit d'un match nul ce soir. À 13h30, faut-il abaisser l'âge de vote à 16 ans? C'est en débat au Sénat demain, proposition aussi à l'Assemblée, c'est dans le programme de la coalition allemande. Qu'en pensez-vous? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos interventions. Nos invités sont le député En Marche François Jolivet et l'universitaire Anne Muxel. La rubrique culture du 13-14, West Side Story et les tuches dans la chronique cinéma. Un film d'animation sur Anne Frank inspire Jean Lebrun pour le vif de l'histoire. Et dans C'est une chanson, musique et bouddhisme avec le moine Mathieu Ricard. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
La dernière fois que l'Allemagne a changé de chancelier, Emmanuel Macron avait 27 ans, Jacques Chirac était à l'Élysée et George Bush à la Maison Blanche. C'est dire si une page d'histoire s'est tournée ce matin au Bundestag, le Parlement à Berlin. C'était un peu avant 10h20.
Monsieur Olaf Scholz a obtenu plus que la majorité nécessaire de 369 voix, conformément à l'article 63, alinéa 2 de la loi fondamentale. Il est donc élu chancelier de la République fédérale d'Allemagne.
Bonjour Nathalie Versieux.
Bonjour.
En direct de Berlin avec nous après ce vote, le social-démocrate Olaf Scholz a prêté serment.
Oui, c'était une cérémonie sobre, un rituel bien huilé. Quelques moments d'émotion tout de même, malgré le tempérament retenu des deux principaux protagonistes, Angela Merkel et Olaf Scholz. La chancelière, ovationnée pendant de longues minutes à l'ouverture de la cérémonie, a assisté à la procédure depuis le balcon du Bundestag, non loin de Gerhard Schröder et de la famille d'Olaf Scholz. Élu sans surprise par 395 députés sur 736, il a accepté le résultat d'un sobre oui avant de recevoir les félicitations de tous les députés défilant un à un devant lui chargés de fleurs et même d'un panier de pommes. Olaf Scholz s'est ensuite rendu en voiture au château de Bellevue pour recevoir son acte de nomination du président de la République. Un peu plus tard dans la journée, Angela Merkel lui remettra son bureau. Elle déménagera avec 9 collaborateurs à quelques centaines de mètres de là sur l'avenue Unter den Linden où, ironie de l'histoire, elle occupera le bureau de Margot Honecker, l'épouse du dernier dirigeant communiste de ex-RDA.
Nathalie Versieux, en direct de Berlin pour France Inter. Emmanuel Macron salue l'élection d'Olaf Scholz. Il promet d'écrire la suite ensemble pour les Français, les Allemands et les Européens. Le Chinois Xi Jinping souhaite un nouveau niveau de relation avec l'Allemagne. Le Kremlin plaide pour une relation constructive. Et les Allemands, que disent-ils de l'élection de cet homme de 63 ans, réputé ennuyeux, surnommé l'automate? Élément de réponse avec ce reportage de Benjamin Illy à Munich pour France Inter.
Une rue commerçante dans le centre-ville de Munich. Nous croisons Marcus, plutôt élégant, 35 ans, profession.
Having fun.
Il profite de la vie, on n'en saura pas plus. Il n'avait pas prévu de parler politique.
Get rid of COVID.
Mes priorités, dit-il, c'est se débarrasser du Covid. C'est la première chose à l'agenda d'Olaf Scholz, qui a prévu d'ailleurs d'imposer la vaccination obligatoire en février ou mars. C'est sûr qu'il est assez ennuyeux, mais son approche pragmatique sera peut-être couronnée de succès. Ils ne sont pas du même parti, mais il est un peu comme Angela Merkel, en homme et sans cheveux. Un peu plus loin, sur son vélo, Stéphanie, 50 ans, avocate, elle a voté pour les Verts.
I think it's cool.
C'est bien, on a une grande coalition, c'est une chance. Pour changer les choses, ils vont devoir trouver un compromis entre le social, la protection du climat et l'économie, ses priorités, le salaire minimum horaire à 12 euros et le changement climatique. Une préoccupation qu'elle partage avec Tina, 27 ans.
D'accord, elle est pompier.
Tina soutient la sortie du charbon dès 2030, ce n'est pas le futur, dit-elle. Le charbon, ce n'est pas une énergie propre. Elle préfère l'énergie nucléaire et souhaite qu'Olaf Scholz reconsidère la question. Les dernières sont centrales nucléaires seront débranchées fin 2022 en Allemagne.
Viel Glück, Olaf Scholz.
Bonne chance à Olaf Scholz en allemand. Danke.
Voilà pour ce reportage de Benjamin Illy à Munich. Et bonjour Hans Stark.
Bonjour.
Chercheur à l'IFRI, conseiller pour les relations franco-allemandes. Alors, examinons le programme de cette coalition entre les Verts, les sociaux-démocrates et les libéraux. En partant, pourquoi pas, des questions qu'on se pose en France. Est-ce que cette Allemagne social-démocrate, libérale et écologiste sera toujours aussi raide, entre guillemets, sur la rigueur budgétaire?
Alors peut-être un peu moins, sans complètement abandonner la raideur traditionnelle des Allemands dans ce domaine. Le contrat de coalition prévoit, un, qu'on ne touche pas à la règle d'or, donc à la philosophie de l'équilibre budgétaire en Allemagne, qui de toute façon est inscrit dans la Constitution. Il faut une majorité de 2/3 des députés pour la modifier, et le gouvernement actuel ne l'a pas. Donc de toute façon, on ne peut pas y changer grand-chose. En revanche, on va essayer quand même de la contourner intelligemment en se montrant inventif, c'est-à-dire en extrayant finalement de cette règle tous les investissements vraiment prioritaires, notamment pour la lutte contre le changement climatique. Et donc ça, c'est une première ouverture. La deuxième ouverture, c'est une phrase qui contient ce contrat de coalition, et c'est un véritable boulevard pour ouvrir les négociations avec les Allemands, à savoir dans le cadre de l'Eurozone, il faut tenir compte de la soutenabilité des dettes publiques européennes. Point. Ça ne veut pas encore dire qu'on va changer les choses, ça ne veut pas dire non plus que le plan de relance franco-allemand de 2020 pour lutter contre l'impact économique du Covid va maintenant se transformer en mutualisation de la dette européenne. Certainement pas. En revanche, la porte est grande ouverte maintenant quand même pour entrer dans des négociations rationnelles et intelligentes en franco-allemand, mais au-delà du franco-allemand, parce qu'il n'y a pas que nous deux. Hein.
Bien sûr. Hausse du salaire minimum horaire à 12 euros, il est à moins de 10. Vote à 16 ans, légalisation du cannabis. Est-ce que c'est une Allemagne plus à gauche dans les années à venir ?
Elle est résolument centriste, cette Allemagne-là. Elle est, il y a un coup à gauche, entre guillemets, en effet, pour le SMIC qui passe à 12 euros, et aussi pour le démantèlement progressif des lois sociales dites Hartz IV qui ont été imposées en 2003. Donc l'Allemagne s'éloigne de cette logique de la politique économique des bas salaires, ce qui est une excellente chose. Mais elle a confié aussi au parti libéral les clés du ministère des finances. C'est monsieur Lindner, le président du parti libéral, qui va tenir les cordons de la bourse, et aussi le ministère très important des transports, car il peut pas y avoir, entre guillemets, une lutte contre les véhicules polluants, etc., à profusion, s'il n'y a pas un accord entre les trois partis. Et on sait déjà que le parti libéral ne veut pas aller trop vite en besogne en ce qui concerne la lutte, par exemple, contre l'utilisation du diesel. Donc il y aura beaucoup de en même temps.
À propos d'en même temps, est-ce que c'est une Allemagne qui sera une partenaire encore plus proche de la France d'Emmanuel Macron ? Il est question d'Europe souveraine dans le contrat de coalition, ce qui est un terme cher à la France.
Alors, Europe souveraine est aussi un autre terme qui n'est pas cher à la France, mais qui va finalement quand même dans le sens développé par Macron, à savoir un État fédéral européen. Alors la France ne veut pas d'un État fédéral, ça c'est clair, mais ça veut dire aussi qu'on est ouvert maintenant à approfondir la construction européenne. Donc ça c'est évidemment un point positif. Mais en même temps, l'Allemagne va également être un partenaire difficile sur les questions de défense et de sécurité. L'armée allemande, qui est déjà sous-financée, verra son budget reculer. On va passer de quelques 50 milliards d'euros à 45, donc une perte quand même de 10%, même si le contrat de coalition dit que la Bundeswehr va profiter, va avoir bénéficié de tout ce dont elle a besoin. Bref, ça veut tout dire et rien.
Là aussi, c'est dur en même temps. Merci, Hans Stark.
Exactement.
Merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Et donc, on continuera évidemment de suivre ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. 3 ans après l'assassinat à Istanbul, dans des conditions épouvantables, du journaliste Jamal Khashoggi, opposant au régime saoudien, est-ce que la France détient détient un des membres du commando qui l'a tué. Les informations sont contradictoires. Depuis l'arrestation d'un ressortissant saoudien hier matin à Roissy, l'Arabie affirme que l'homme n'a rien à voir avec l'affaire. Est-ce qu'il y a eu erreur d'identification comme il y a 2 ans à propos de Xavier Dupont de Ligonnès, Emmanuel Leclerc?
Ben là, c'était un problème de coordination entre police judiciaire à Paris et au Royaume-Uni. La taille ne correspondait pas. Là, c'est un peu différent car c'était une procédure automatique depuis hier matin. Les services judiciaires tentent de vérifier qu'il y a malgré tout pas erreur effectivement sur la personne. Les agents de la police aux frontières dispose uniquement de cette fiche rouge Interpol avec une pauvre photo pas très nette qui s'est déclenchée sur l'ordinateur de la guérite à la PAF à Roissy. Oui. Hier matin, une fiche rouge que les autorités turques ont rentrée dans le système international de la coopération policière il y a 3 ans. Il n'y a pas d'empreinte digitale, encore moins d'ADN. À ce niveau-là, on peut donc avoir des doutes. Et de source, et selon nos informations, il y aurait bien depuis ce matin un problème au final d'homonymie. On se dirigerait vers une levée demain matin de la rétention administrative du suspect.
Merci Emmanuel Leclerc. Un jalon de plus dans le tourisme spatial. Un milliardaire japonais s'est envolé ce matin à bord d'une fusée russe Soyouz en direction de la Station Spatiale Internationale.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
À 4 mois de la présidentielle, alors que la dernière vague de sondages après la victoire de Valérie Pécresse à la primaire LR donne de l'élan à la candidate de droite, ne pas perdre le contact avec l'opinion. C'est le sens du déplacement d'Emmanuel Macron hier et aujourd'hui dans le Cher et l'Allier. En cette mi-journée, il préside le Conseil des ministres en visioconférence depuis Moulins. Et avant cela, le président a accordé ce matin une interview à nos confrères Radio France de France Bleu, Pays d'Auvergne. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Une interview que vous avez écoutée attentivement, il s'agissait de parler du Covid. Noël peut se dérouler sereinement, est convaincu le président. Des sujets de vie quotidienne, le manque de médecins, c'est un des problèmes les plus importants de notre pays aujourd'hui, dit-il encore. Et puis l'histoire et la politique aussi au menu, avant d'aller à Vichy.
Avec cette réponse à peine voilée, voire disons-le pas voilée du tout, à Éric Zemmour, le candidat d'extrême droite, affirme que Pétain a sauvé des juifs français. Emmanuel Macron lui se pose, c'est d'ailleurs sa stratégie pour 2022, en garant de l'apaisement et de la raison.
Cette histoire, nous l'avons vécue, elle est écrite par les historiennes et les historiens, et c'est une bonne chose de s'y tenir. L'histoire, nous gagnons à la respecter, à l'apprendre, et gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir, et saluons le courage de ces 80 parlementaires qui, à Vichy, en effet, se sont opposés à ce qui était l'esprit de défaite.
Qui ont refusé de donner les pleins pouvoirs au maréchal, à qui le président va donc rendre hommage cet après-midi. Il s'arrêtera aussi devant la stèle en mémoire des juifs déportés. Des moments qui ne figurent pas au programme officiel. Jusqu'à ce matin, les communicants de l'Élysée assuraient contre toute évidence que cette visite à Vichy n'avait rien à voir avec la bataille présidentielle. En une réponse très calculée, Emmanuel Macron vient de les contredire. Il est le premier président depuis De Gaulle à s'attarder dans la ville. Giscard y était passé en coup de vent en 78. Le fait qu'il le fasse aujourd'hui, juste après l'entrée en campagne d'Éric Zemmour, ne doit évidemment rien au hasard.
Simon Le Baron en direct pour France Inter avec Georges Thau. Alors les Vichysois en ont marre de cette image qui leur colle à la peau liée au régime de Pétain. Comment l'évacuer? Eh bien en valorisant d'autres pans de l'histoire de la ville et son patrimoine. Béatrice Duguay, Vichy par exemple, a été inscrite récemment au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
Vichy, ses pastilles blanches en octogone, son tissu à carreaux, ses cosmétiques, ses eaux thermales évidemment, et aujourd'hui son classement à l'UNESCO, donc avec d'autres villes thermales européennes.
Ah ça on sait, oui.
Croché par l'Office du tourisme pour Roselyne et Jean-Pierre, en cure pour une semaine et en quête de promenade.
Bah, on est déjà venu, mais on est passé. Alors, donc, c'est on va dire la première fois.
Les touristes, Vichy s'attendent à en recevoir nettement plus de l'étranger grâce au label, qui est aussi un accélérateur économique, constate Romain Chabert, directeur de Vichy Économie.
On est contacté par des investisseurs ou des entreprises qui sont, pour le coup, européennes ou étrangères. Donc, on voit qu'il y a un effet immédiat en termes de notoriété et d'image de la ville. On va, avec les élus de l'agglomération, libérer un certain nombre de terrains parce qu'on a des demandes extrêmement fortes. Et c'est un peu tout secteur. Ça peut aller des secteurs industriels comme de services aux entreprises.
Le secteur du luxe, notamment Alvan, Poupe, besoin de bureaux donc, d'ateliers, d'entrepôts, 800 emplois à venir dans les prochains mois. UNESCO plus Covid, la pression grimpe également sur l'immobilier. Ingrid Pouillet de l'agence Victoria Vichy le sent tous les jours.
On a reçu des appels même de personnes qui ne connaissaient absolument pas Vichy. Ils veulent essentiellement être dans la ville. Je ne peux pas dire qu'il y a des choses qui ne se vendent pas. et on a beaucoup plus de demandes que de vendeurs.
Après l'UNESCO, Vichy mise sur 2024. Ses infrastructures sportives sont déjà retenues comme centre de préparation aux Jeux Olympiques.
Emmanuel Macron en campagne sans le dire à Vichy. La droite de son comté a sa candidate. L'extrême droite est en campagne. La gauche aussi. Mais avec quelle audience pour l'instant? Dans le sondage Elab paru hier, ce n'est qu'une photo de l'opinion à un instant donné. Les intentions de vote pour la gauche sont très faibles. 8% pour Jean-Luc Mélenchon, 7% pour Yannick Jadot, 3% pour Anne Hidalgo, 2% pour Arnaud Montebourg. En incluant l'extrême gauche, on arrive péniblement à 24% d'intentions de vote, là où la seule extrême droite est à 31%. Il reste 4 mois de campagne qui peuvent tout bouleverser, évidemment, Antoine Gignot, mais le moment est critique. Dans Libération ce matin, Antoine, interrogé sur le thème « Et si le marasme dure ?», Arnaud Montebourg, à ces mots, il faut envisager une unification des projets et candidatures à gauche. Est-ce que c'est crédible?
En tout cas, ce n'est plus un sujet tabou. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Arnaud Montebourg refusait de parler d'unité de la gauche. Il est en train de changer d'avis et la question se pose dans plusieurs équipes. Même si Jean-Luc Mélenchon exclut tout regroupement, les lignes bougent. Anne Hidalgo continue de se présenter comme la candidate capable de rassembler, mais plusieurs socialistes parlent d'unité nécessaire. Yannick Jadot explique qu'il ne cédera pas sa place comme il l'a fait en 2017, mais une partie de son équipe s'interroge sur les alliances possibles et c'est dans ces petites brèches qu'espèrent s'engouffrer les militants de la primaire populaire comme Mathilde Himmer qui milite pour une candidature commune de la gauche.
On sent que dans les équipes des candidats, ça bouge, que ça discute. Il y a énormément de discussions en interne à propos de la primaire populaire, ce qui n'était pas le cas plus récemment. Il y a une stagnation dans les sondages. Aucun ne dépasse aujourd'hui 10%. Tous décrivent ce qu'ils appellent un faux plat, ce qu'on peut voir comme un vrai plat. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont tellement déprimés, qui vont vers l'abstention, le vote blanc, ou qui finissent par se dire « bon bah en fait, le rempart face à Éric Zemmour et à Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Quand est-ce que les candidats et les candidates vont prendre en considération cette force citoyenne qui leur propose une solution ?»
Pour convaincre, le mouvement mise aussi sur le nombre de sympathisants inscrits sur son site internet, 225 000 personnes, et appelle à un rassemblement samedi. Reste aussi la possibilité d'une candidature surprise à gauche, comme celle de Christiane Taubira, selon plusieurs de ses proches. Elle discute ces derniers jours avec l'ensemble des candidats.
Éric Zemmour, lui, débattra demain avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur France 2. 3 jours après son meeting de Villepinte, l'homme qu'il a agrippé alors qu'il remontait la salle avant son discours est présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Que sait-on de cet homme, Laurélie Carive?
Il a 27 ans, est entrepreneur dans le secteur du tourisme, réside à la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. L'homme est aussi encarté au parti Les Républicains depuis un mois et a participé à la primaire. Sur Twitter, il affiche son soutien à Philippe Juvin, candidat malheureux et maire de sa commune. Au second tour, il explique avoir voté Éric Ciotti pour que la France redevienne la France que nos grands-parents ont connue, écrit-il. Alors pourquoi ce geste dimanche au meeting d'Éric Zemmour? En garde à vue, il a assuré ne pas avoir voulu blesser le candidat, s'est présenté comme un sympathisant débordé par l'enthousiasme. Le juge d'instruction qui a été saisi du dossier va donc devoir mettre tout ça au clair. Ce qu'on sait, c'est que le suspect a déjà été condamné pour des violences ces dernières années. L'enquête devra aussi se pencher sur le préjudice subi par Éric Zemmour, autrement dit la gravité de sa blessure. Le médecin qui l'a examiné a conclu à 9 jours d'incapacité temporaire de travail, mais le candidat ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé à l'unité médico-judiciaire qui devait permettre de conforter ce diagnostic.
À Nantes, hier soir, des manifestants catholiques intégristes ont empêché la tenue d'un concert à l'église Notre-Dame du Bon-Port. Ils jugent l'artiste, la suédoise Anna von Auswoff, sataniste. Elle qui, dans une chanson sur l'addiction à la drogue, dit avoir fait l'amour avec le diable. Nous ne sommes pas les bourreaux, nous ne voulons pas d'une société où les victimes de la violence des dominants seraient tenues au silence. Titre et fin d'une tribune signée par 14 femmes aujourd'hui dans le journal Le Monde. Leur point commun, elles se sont déclarées publiquement victimes de violences sexuelles de Patrick Poivre d'Arvor ou Nicolas Hulot. Elles se regroupent donc. Autre point commun, Thibault Lefèvre, elle reproche à Emmanuel Macron des déclarations récentes.
Oui, et une expression notamment du président de la République qui est très mal passée. La société de l'inquisition qu'Emmanuel Macron a employée il y a une semaine lors du Conseil des ministres. Emmanuel Dancourt est une des victimes présumées de PPDA. C'est elle qui a couché sur le papier les premiers mots de la tribune.
On ne peut pas laisser passer ça. Quand le plus haut personnage de l'État parle d'inquisition, alors que nous a fallu des années pour arriver à donner nos témoignages, et finalement, c'est le plus haut personnage de l'État qui ne nous entend pas. On a pris ce mot inquisition en pleine figure. Nous, on a eu le courage de parler. Il faut vraiment maintenant qu'il ait le courage de nous entendre.
14 femmes signent la tribune, 13 victimes déclarées de PPDA, une de Nicolas Hulot, avec un point commun à toutes ces affaires. Le silence des dirigeants de TF1 qui, selon Cécile Delarue, savaient mais n'ont rien fait. Cécile Delarue dénonce elle aussi les agissements de PPDA.
Il y a eu un énorme problème à TF1 où on pouvait laisser passer, laisser vivre à la tête et pour représenter cette chaîne même des prédateurs extrêmement dangereux.
D'autres témoignages de victimes pourraient émerger ces prochaines semaines. Il y en aurait, selon l'association MeToo Media, des dizaines d'autres de femmes et d'hommes qui dénoncent les comportements de journalistes pas nécessairement aussi connus que PPDA ou Nicolas Hulot.
Et rappelons que Patrick Poivre d'Arvor, comme Nicolas Hulot, nie formellement avoir jamais contraint une femme à des relations sexuelles. Près de 2 ans après son apparition, le Covid a désormais provoqué la mort de près de 120 000 personnes en France. En pleine cinquième vague, le nombre de patients à l'hôpital continue d'augmenter. 12 700, plus de 2 300 en soins critiques. Parmi les hôpitaux qui ont déclenché le plan blanc, tous ceux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Agence régionale de santé lance un appel à toutes les compétences disponibles. C'est le variant Delta qui est encore et toujours ultra majoritaire dans notre pays. Le nombre de cas de variant Omicron est encore limité, 32. Mais la menace est là. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Près de 2 semaines après son identification à ce variant en Afrique du Sud, qu'en sait-on ? Le président du conseil scientifique notamment a fait le point ces dernières heures.
Oui, les études commencent à fleurir mais n'ont pas encore été relues par des pairs. Il faut donc être extrêmement prudent. C'est d'ailleurs en précisant qu'il le faisait avec beaucoup d'humilité que le président du conseil scientifique s'est exprimé ce matin. Jean-François Delfraissy a confirmé que le variant Omicron semblait plus contagieux que Delta, mais aussi qu'il semblait particulièrement toucher les enfants.
Est-ce qu'il touche plus les enfants parce qu'il y a un tropisme un peu particulier, ou est-ce que parce que les enfants, comme ils sont peut-être ceux qui ont été moins infectés ou moins vaccinés, hein, c'est le problème actuel qu'on a en France, hein, les Sud-Africains, les médecins sud-africains, y compris me l'ont confirmé ce matin, là, ils voient des choses d'enfants hospitalisés, mais pas avec des formes graves, avec ce variant Omicron.
Et selon le président du conseil scientifique, sa dangerosité serait en revanche égale, voire légèrement inférieure à Delta. Qu'en est-il de l'efficacité des vaccins ? L'OMS s'est voulu rassurant cette nuit. Il n'y a aucune raison de douter du fait que les vaccins actuels protègent contre les formes sévères, a estimé le responsable des urgences de l'organisation. Le professeur Delfraissy était un peu plus prudent ce matin devant les sénateurs, estimant qu'il y avait bien une baisse d'efficacité. Un avis partagé par l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, qui s'appuie sur les premiers résultats d'une étude sud-africaine. Elle était l'invitée ce matin de nos confrères de France Info.
Malheureusement, il y a une baisse de l'efficacité du vaccin qui a l'air importante. Autrement dit, les anticorps neutralisants suscités par le vaccin neutralisent beaucoup moins bien ce variant Omicron par rapport aux autres variants d'après ces premiers résultats qui restent à confirmer.
Mais l'infectiologue précise tout de même qu'il est possible que le rappel permette cette fameuse protection contre les formes sévères.
Depuis le début de la campagne de vaccination, le Pfizer est de loin le produit le plus utilisé en France. En chiffreront 80 millions de doses sur 100 millions administrées. Moderna, c'est un peu plus de 10 millions. Il est réservé aux plus de 30 ans à cause d'un risque extrêmement faible statistiquement de myocardite. Pfizer est le plus populaire et les soignants le constatent sur le terrain. À Chambéry, par exemple, où le vaccinodrome reprend du service aujourd'hui pour 10 jours, on pique avec du Moderna. Il n'y a pas d'hésitation à avoir, répète le directeur de l'Agence régionale de santé en Savoie, Loïc Mollet.
Et le dernier avis de la Haute Autorité en Santé dit bien que le Moderna est tout à fait adapté pour les personnes de plus de 30 ans. Voilà, il n'y a pas de raison de douter. Et il a même une légère supériorité en termes de protection que le vaccin Pfizer. Ce qui est important, c'est qu'on soit bien sur un vaccin ARN messager. L'idée étant que sur ces 10 jours, il y ait 25 000 créneaux qui soient proposés pour la population de Savoie. Surtout pas hésiter, c'est important parce que c'est comme ça que le virus circulera moins, c'est comme ça qu'il y aura moins de personnes qui auront des formes graves et c'est comme ça aussi que du coup, il y aura moins de personnes qui iront à l'hôpital.
En propos recueilli par nos confrères de France Bleu, pays de Savoie, à propos du vaccin Pfizer, l'entreprise affirme qu'il est toujours efficace contre le variant Omicron après 3 doses. Et qu'un vaccin adapté spécifiquement à ce variant est attendu en mars. C'est une communication de l'entreprise, hein, pas de la part de scientifiques indépendants. Y aura-t-il 2 clubs français cette année en 8e de finale de la Ligue des champions de football ? Le PSG est qualifié. Ce soir, Lille joue chez les Allemands de Wolfsburg. Un match nul suffirait aux nordistes pour se qualifier. Allez, il est temps de prendre des nouvelles des Jets, des Sharks et des Tuches. C'est la sélection cinéma du mercredi. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour Bruno.
On adore les détester. Ils sont de retour. Ils ont bien l'intention de bousculer le box-office pour les fêtes de Noël. Ce sont...
c'est le moment de préparer Noël en famille.
Moi, ce qui se passe dans Chicorée.
Mais je voudrais que ma sœur soit là aussi.
Le problème, c'est son mari, ce con Jean-Yves.
Oh oui, oui, ça va.
Ce sont les Tuches, quatrième volet ce mercredi au cinéma des aventures de la famille, le grand test pour tous les exploitants de cinéma coréen.
Et oui, parce qu'avec une moyenne de 5 millions de spectateurs par film, c'est évidemment l'une des sorties les plus attendues de l'année, prévue sur un peu plus de 900 écrans, ce qui est quasiment du niveau d'un Star Wars. Ceux qui ont apprécié les précédents volets ne seront pas déçus. Chez les Tuches, on mange toujours des frites. Et les amateurs de vannes et de jeux de mots en auront pour leur argent dans cette histoire qui nous ramène cette fois à Bouzol. Pendant les fêtes de fin d'année, Jean-Paul Rouve, Jeff Tuche, toujours affublé de son affreuse coupe de footballeur, a décidé de faire plaisir à sa femme Isabelle Nanty, de se réconcilier avec son beau-frère, joué par Michel Blanc, qui fait ici une arrivée plutôt réussie dans le rôle d'un manager chez Magazone, le plus grand entrepôt de distribution de la région. Les retrouvailles, évidemment, ne seront pas simples, avec d'un côté le méchant patron et le Made in China, de l'autre le gentil chômeur qui veut sauver Noël en fabriquant des jouets gratuits pour les enfants. Un tome 4 plus familial, plus social, qui s'attaque aux ravages du commerce en ligne et de la surconsommation.
Également au cinéma ce mercredi, Corinne, le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa, Les Amants Sacrifiés.
Voilà, toujours autour de ce thème, que le réalisateur japonais travaille sans relâche, le thème du couple, une histoire qui se déroule cette fois pendant la Seconde Guerre mondiale à Kobe en 1941, qu'il a écrite avec le réalisateur du magnifique Drive My Car, sorti cette année, Ryusuke Hamaguchi. Deux talents réunis pour un film rempli de secrets, de trahisons, d'apparences trompeuses, résultat délicat et engagé.
Un des sifflements les plus célèbres du cinéma et le film le plus controversé de la semaine à présent.
Voilà, West Side Story, revisité par Steven Spielberg. On ne pardonne pas toujours, même au plus grand réalisateur, de s'attaquer à une œuvre aussi culte. Le West Side Story de Robert Wise au cinéma en 61, c'est 10 Oscars. Des chansons que tout le monde fredonne encore 60 ans plus tard. Somewhere, Maria, Tonight, America. Alors pourquoi refaire un film? Eh bien parce que Steven Spielberg estime qu'il avait encore des choses à dire dans cette version finalement assez proche de l'original. On est toujours dans les années 50 avec ces deux bandes rivales, les Jets, les Sharks, qui sont joués cette fois par de vrais latinos. Ce qui a changé ici, c'est la manière dont le réalisateur s'empare de la puissance politique du film. Des répliques en espagnol qui ne sont pas toujours traduites, davantage aussi d'inclusivité, avec ce personnage de garçon manqué, souvenez-vous, Anybody, oui, qui cette fois-ci est joué par un comédien trans. Les moyens déployés sont aussi évidemment à la hauteur de la réputation de Steven Spielberg et font de ce West Side Story un agréable divertissement de Noël pour toute la famille.
Tonight, tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight.
West Side Story version Spielberg, mais aussi Kurosawa et les Tuches au cinéma cette semaine. Merci Corinne Pellissier, et puis on parlera d'Anne Frank tout à l'heure avec Jean Lebrun. La météo d'abord.
How did we get here? Comment en sommes-nous arrivés là? Comment pouvions-nous renouer avec une histoire américaine plus fédératrice? J'ai souvent parlé de ce sujet avec mes amis. Et l'un de ces amis est monsieur Bruce Springsteen.
Born in the USA, le dialogue passionnant entre Barack Obama et Bruce Springsteen. Un livre exceptionnel aux éditions Fayard.
Mon maître et mon vainqueur. Vasco se consume pour la flamboyante Tina. Tina aime Vasco. Vasco jalouse l'insipide fiancé de Tina. Un trio amoureux, explosif, au cœur d'une tragicomédie romantique follement drôle et pétillante, où passion et raison s'affrontent dans un duel jubilatoire. Mon maître et mon vainqueur, de François-Henri Désérable, est un roman d'amour brillant et virevoltant, couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française. Mon maître et mon vainqueur, de François-Henri Désérable, un livre Gallimard.
France Inter aime
l'évolution en voie d'illumination, un voyage dans le temps nocturne, spectaculaire et éclairant. Le Jardin des Plantes à Paris célèbre la saga de la vie à travers une centaine de structures lumineuses monumentales et inédites, fruit du travail de recherche des paléontologues du Muséum National d'Histoire Naturelle. Dinosaures, trilobites, étranges espèces terrestres, marines ou volantes qui ont peuplé la Terre au cours des 600 derniers millions d'années. Réservation exclusivement en ligne. L'évolution en voie d'illumination jusqu'au 30 janvier, un partenariat France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Le temps est souvent agité avec des averses, Jean-Pierre.
Oui, effectivement, elles seront même orageuses hein, près des côtes de la Manche et de l'Atlantique, mais aussi du côté de la Corse. Elles seront fréquentes sous un ciel souvent nuageux, du grand sud-ouest au massif central et de la Bourgogne aux frontières du nord-est. Prévoyez de faibles pluies ou neige entre les Vosges et le massif alpin. Et attention hein, au risque élevé d'avalanches sur les Alpes. Les averses de neige seront parfois fortes sur les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées au-dessus de 600 mètres d'altitude. Et puis une bonne nouvelle, hein, Bruno. Vous allez quand même profiter de belles éclaircies entre le centre Val-de-Loire et les frontières belges en passant par l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne, sans oublier le pourtour du Golfe du Lion.
Et des températures proches des normales.
Effectivement, avec des maximales généralement comprises entre 5 et 12 degrés, avec 5 à Besançon, 7 à Lyon, Toulouse et Bordeaux, 8 dans la capitale, comptez 11 à Marseille. Par contre, c'est plus doux en Corse avec 16 à Bastia et Ajaccio.
16 Bastia, Ajaccio. Merci Jean-Pierre Hameau, Météo France. Il est 13h30.
France Inter. Le 13-14, Bruno Duvic.
La mesure figure dans le programme de la coalition qui prend le pouvoir aujourd'hui en Allemagne. Ailleurs en Europe, elle est déjà en place en Autriche et en Écosse. En France, trois candidats à la présidentielle, tous à gauche, la soutiennent. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon. On parle du droit de vote à 16 ans. Est-ce une mesure de nature à ramener les plus jeunes électeurs vers les bureaux de vote? Au dernier régional, au premier tour, l'abstention chez les 18-24 ans était de 84%. Alors le droit de vote à 16 ans, le Parlement en débat. Une proposition de loi socialiste est examinée demain au Sénat. À l'Assemblée, c'est un député En Marche qui défendait la mesure récemment avec d'autres mesures à ses côtés. Vous ou vos enfants ont moins de 18 ans, trouveriez-vous normal de voter dès 16 ans? Un âge où on peut travailler, conduire via la conduite accompagnée et s'engager dans une association. Je vous attends au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter pour vos questions et témoignages. Deux invités jusqu'à 13h45. L'universitaire Anne Muxel, directrice de recherche au CNRS en sociologie et sciences politiques. Et vous avez beaucoup étudié le comportement électoral des jeunes. Bonjour Anne Muxel.
Bonjour.
Et le député En Marche François Jolivet qui a déposé récemment donc cette proposition de loi à l'Assemblée. Bonjour François Jolivet.
Bonjour monsieur, bonjour madame.
Alors il n'y a pas que le vote à 16 ans hein, dans votre proposition de loi. Mais arrêtons-nous d'abord sur ce détail. Pourquoi abaisser l'âge du vote à 16 ans, François Jolivet?
Parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que à 16 ans, en 2021, on est une autre personne que lorsque j'avais 16 ans, moi, à mon époque. Les jeunes sont devenus parfois extrêmement matures, et puis par ailleurs, sans doute, à l'excès aussi, immatures. Mais on s'aperçoit que la chose publique les intéresse sans doute beaucoup plus que ma génération, moi je suis né en 1966, ouais, pouvait intéresser à l'époque. Et moi, la proposition de loi que j'ai donc déposée est de leur permettre de voter, mais c'est une responsabilité.
Ouais.
Moi, j'ai ajouté également, qui vient d'un département rural, le permis de conduire à 16 ans, puisque lorsqu'on se promène sur les routes sous la pluie, ouais, avec un scooter ou un deux roues, si j'ose dire,
on a intérêt d'être responsable.
On a intérêt d'être, ouais, responsable, mais c'est surtout ce mieux dans une voiture, on est plus à l'abri. Mais la contrepartie de tout ça, c'est que lorsqu'on a un permis de conduire, eh bien, on peut être responsable d'homicide involontaire, et donc il s'agit aussi d'abaisser la responsabilité pénale également à 16 ans, comme l'ont fait beaucoup d'autres États. Ce qui veut donc dire que c'est donner des nouveaux droits, conduire, voter, et de nouvelles responsabilités, abaisser la majorité pénale au même âge.
Anne Muxel, abaisser le droit de vote à 16 ans, est-ce que vous dites c'est une bonne mesure? Est-ce que c'est de nature à ramener les jeunes électeurs dans les bureaux de vote?
Oui, c'est une bonne mesure dans la mesure où cela permet aux jeunes d'entrer dans leur rôle de citoyen actif et surtout d'être reconnus légitimement par la société, par le personnel politique, par voilà l'ensemble même de la communauté des adultes, je dirais, à participer pleinement à la politique. Alors, ce que l'on a observé, c'est que plus on entraîne les jeunes à exercer leur fonction de participants aux instances de délibération, aux instances de décision, plus on les entraîne à être des citoyens actifs, à contribuer finalement au vivre ensemble démocratique, et bien plus cela a de chances de se fixer durablement dans le temps et dans le parcours de la vie ultérieure. Et donc plus on prend l'habitude de voter tôt, plus on aura des chances aussi d'être un électeur constant plus tard. Donc de ce point de vue-là, abaisser le droit de vote à 16 ans permet en tout cas de lutter contre l'abstention qui évidemment prend de plus en plus de place dans le paysage politique de nombre de nos démocraties occidentales.
C'est en effet le cas. François Jolivet, pour fixer les choses, quel que soit l'avenir et de votre proposition de loi et de la proposition de loi socialiste examinée au Sénat, c'est trop tard pour que les gens qui ont aujourd'hui 16 ans puissent voter à la prochaine présidentielle. Ça n'est pas l'idée.
Je pense que ça va rythmer la campagne présidentielle qui me semble avoir commencé.
Ouais.
Oui, c'est trop tard. Mais
l'idée, c'est de le mettre dans le débat justement à l'occasion de cette campagne.
Bien sûr, cette proposition de loi qui était signée par quelques amis députés, nous sommes 4, 2 de la majorité, on va dire La République En Marche, et 2 qui sont du groupe Agir, donc de la majorité aussi, et du groupe ouais. Modem. Nous avons tous la volonté, en fait, signataire, de mettre ça au débat public. Mais toujours avec cette idée de dire...
Sachant qu'il y a peu de chances que le texte passe en l'état.
Le texte ne passera pas. Nous l'avons fait de manière volontaire. C'est mettre ça au débat public afin que tout le monde puisse se positionner.
Et vous souhaiteriez qu'Emmanuel Macron, s'il est candidat, défende cette mesure? Pour l'instant, il est entre les deux. Il a pris des positions un peu ambiguës.
Moi, si vous voulez, je n'ai pas commenté la pensée du président de la République. Ce que je veux simplement dire, c'est que le fait... Si j'étais sénateur, je ne voterais pas cette proposition de loi demain. Uniquement le vote à 16 ans. Uniquement.
Il faut les mesures complémentaires que vous nous avez exposées.
Je pense qu'il faut des mesures complémentaires, il faut des droits et des devoirs. Des nouveaux droits et des devoirs. Et pour faire écho au propos de la dame qui est intervenue avant moi,
Huxelles, ouais.
Eh bien, je crois que l'apprentissage de la vie de citoyen aujourd'hui doit commencer de manière plus neuve que seul le permettent aujourd'hui les réseaux sociaux. Et le fait d'avoir le droit de voter sera sans doute un moyen sans doute de tempérer les formules des réseaux sociaux.
Les effets délétères des
réseaux sociaux. Voilà.
Estelle au standard, bonjour Estelle.
Ah bonjour.
Alors vous êtes parfaite pour observer tout ça, vous êtes maman de deux jeunes de 18 et 16 ans et vous dites qu'il y a une maturité très différente entre les deux.
Oui, alors ce que je disais c'était que ma fille qui a eu 18 ans en début d'année, n'était absolument pas mature jusque-là, à mon avis, pour aller voter. Donc nourrie par les réseaux sociaux, comme le disait votre invité oui. Juste à l'instant. Mais depuis la rentrée, elle fait de la philo au lycée. Et je vois des ailes lui pousser dans le dos. Elle a vraiment une vraie conscience du monde qui s'installe, qu'elle n'avait absolument pas l'année dernière. Notamment la première fois qu'elle a été votée. Quant à mon fils, qui a 16 ans, qui lui est très mature, a des idées politiques, etc., depuis un bon moment déjà, il fait depuis cette année de la géopolitique, des sciences économiques et sociales au lycée, et cela lui donne une vision du monde qui lui permet d'affiner vraiment ses avis et ses choix, et qui lui donne des envies de vote qui vont pas forcément être les miennes, mais qui vont être très argumentées. Et c'est pour ça que je pense que 18 ans, c'est bien. Quant au permis de conduire, je fais aussi la conduite accompagnée avec eux. Et il serait hors de question de les laisser conduire ou de leur confier mon véhicule avant 18 ans, n'est-ce pas?
Bon, ok, voilà. C'est noté. Anne Muxel, ça amène deux questions. Petit 1 sur la maturité. On a entendu François Jolivet répondre à cet argument. Et puis, est-ce qu'il faut accompagner ces mesures au-delà de ce que défend François Jolivet, par exemple, par des cours d'éducation civique ou de sciences politiques plus poussés au lycée?
Alors oui, le témoignage est très intéressant dans la mesure où il montre le rôle que peut jouer l'école dans cet apprentissage et dans cette formation à la citoyenneté. Alors il y a déjà des cours, hein, il y a déjà des cours bien sûr d'éducation civique, mais on voit bien aussi que au-delà certaines matières comme la philosophie, comme l'histoire, la géographie, les sciences économiques et sociales ouvrent évidemment les élèves et donc les jeunes aux enjeux du monde contemporain, aux enjeux de société, au sein desquels évidemment doivent prendre place la décision électorale et se fait le débat politique. Donc je pense qu'effectivement l'école là a un rôle très important d'accompagnement à jouer si une telle mesure passait, en tout cas dans la formation civique. Il y a un deuxième point aussi que je voudrais aborder sur cette question de la maturité. C'est toujours la question qui est posée dès l'instant où l'on veut abaisser l'âge du droit de vote. Mmh. Je rappelle qu'en 1974, quand il s'est agi d'abaisser le droit de vote de l'âge de 21 ans à 18 ans, c'était aussi sur la question de la maturité que l'on a chopé. C'est-à-dire que l'opinion dans l'ensemble était défavorable à cette mesure. Et au prétexte que, eh bien, il était considéré à l'époque qu'à 18 ans, vraiment, on ne pouvait pas avoir de maturité politique suffisante par rapport à 21 ans, que les jeunes de l'époque ne pourraient que répéter éventuellement les choix de leurs parents, et donc ils ne seraient pas capables d'exprimer un choix autonome et responsable. Aujourd'hui, on dira, eh bien, ils ne vont faire que répéter, ils ne vont que répéter le choix de leurs parents, et en plus des réseaux sociaux. dont ils n'arriveront pas à se former un jugement autonome. Alors voilà, cette question de la maturité, elle est toujours là, mais elle fluctue évidemment au fil du temps.
François Jolivier, remarque de François sur l'appli droit de vote à 16 ans. Elle estime que c'est une proposition démagogique et dangereuse si elle implique l'abaissement de l'âge de la majorité pénale. Ça induit qu'on jugerait des ados de 16 ans comme des adultes. Que lui répondez-vous ?
Écoutez, si la France permettait aux jeunes de 16 ans de conduire, comme aux États-Unis, qui est un pays de 340 millions d'habitants, et donc il y a bien des gens, et je crois d'ailleurs que ce pays a moins d'accidents que nous, et a donc des jeunes sur la route, la contrepartie, en fait, du fait de pouvoir conduire, c'est d'être responsable, y compris de ses actes. Et puisqu'on est seul dans son véhicule, où on prend en protection un certain nombre de passagers. Donc en fait, on ne peut pas imaginer conduire sans responsabilité pénale. Et puis, sur le droit de vote, où il y a toujours le débat sur la maturité, je pense que si le droit de vote existait pour les jeunes de 16 ans, eh bien, ce serait un supplément d'âme donné à des citoyens futurs, afin qu'ils s'approprient beaucoup plus vite la destinée de leur avenir. Enfin, leur avenir. Parce que vous savez, confier à des gens de 60 ans l'avenir dans 40 ans, vraisemblablement, et de construire ce qui se passera en 40 ans, pour celui qui a 60 ans, il y a grande chance qu'il n'y soit plus. En revanche, les jeunes de 16 ans, ils seront toujours, et je pense que leur parole doit être écoutée.
Jacques au standard. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour, merci de me prendre l'appel.
Je vous en prie, vous nous appelez de Lyon.
Merci pour vos émissions. La question du vote à 16 ans est intéressante, importante, mais il me semble qu'elle est un peu trop limitée, et il me paraît nécessaire de l'élargir à un débat beaucoup plus grand avec l'ensemble des citoyens d'ailleurs, autour par exemple du vote à distance, du vote électronique, qui soit dit en passant pourrait également intéresser les jeunes de 16 à 18 ans, et puis les autres jeunes d'ailleurs, sans limite d'âge, et puis également la question même du mode de scrutin, le scrutin nominal à deux tours pour les présidentielles, on sait toutes ses limites, on a vu François Bayrou il y a quelques années, qui était prêt à passer, à gagner au second tour contre tous les candidats, mais qui n'a jamais passé le premier tour, et donc ça n'a pas marché. Et en l'occurrence, on pourrait imaginer de réfléchir au jugement majoritaire, par exemple, qui est promu par la primaire populaire dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui pourrait être intéressant comme mode de scrutin. Voilà, réfléchir beaucoup plus largement
à d'autres réformes du vote.
À d'autres réformes, et qui est une grande réforme des élections en France.
Merci Jacques. Anne Muxel, alors, si on reste sur notre sujet des jeunes, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont de nature à les ramener vers les bureaux de vote ? Je rappelle ce taux d'abstention au premier tour des régionales, 84% pour les 18-24 ans, proportionnel, vote obligatoire, jugement majoritaire. Qu'est-ce que vous retiendriez, vous ?
Oui, alors bon, ne nous focalisons pas trop sur ce taux d'abstention effectivement majeur, régional et départemental de la part des jeunes, dans la mesure où l'ensemble de la population du corps électoral n'a pas non plus témoigné d'un niveau de participation élevé. Donc les jeunes souvent ne font qu'amplifier en fait des tendances de fond. Et les tendances de fond effectivement du rapport au vote et de la citoyenneté, c'est que aujourd'hui l'électeur est devenu de plus en plus intermittent. L'abstention est aussi une voie de message politique pour exprimer un mécontentement, un désaccord par rapport à l'offre électorale. Donc voilà, il y a aussi toute cette dimension politique de l'abstention dont se saisissent aussi les citoyens. Il ne s'agit pas simplement d'un signe d'apathie civique ou de repli ou d'indifférence. Alors, ce que l'on voit, en tout cas chez les jeunes, c'est que même s'ils votent moins, alors ils peuvent choisir d'autres formes d'intervention sur la scène politique, au travers de mobilisations collectives, au travers de mobilisations sur les réseaux sociaux, au travers de signatures de pétitions. Voilà, les jeunes s'engagent, ils ne sont pas indifférents quant à ce qui se passe dans notre pays, quant à ce qui concerne l'intérêt général. Donc je pense qu'il faut, effectivement, comme le dit d'ailleurs très bien monsieur, rétablir cette réflexion qui permet de ramener les personnes, les citoyens aux urnes, dans un vaste ensemble plus large des mesures qu'il faudrait prendre pour ramener effectivement les citoyens à davantage de confiance politique pour les inciter à voter. Et bien sûr que des mesures de facilitation du vote, comme le vote électronique et tout ça, seraient bienvenues.
François Jolivet, sur cette question, vote électronique, proportionnel, vote obligatoire, reconnaissance du vote blanc, est-ce qu'il y en a une que vous retenez ?
Alors moi, je retiens le vote électronique, mais j'ai cru comprendre que les menaces d'attaque cyber aujourd'hui étaient fortes et qu'aujourd'hui, l'appareil d'État n'est pas capable de mettre en place cela en toute sécurité. Maintenant, je pense que les jeunes pourraient être le moteur, justement, de ce vote cyber, de ce vote électronique. Ouais. Et il appartiendrait à l'État de faire en sorte que ce soit possible. Aujourd'hui, vous élisez vos délégués syndicaux dans les entreprises avec des votes électroniques, mais on ne peut pas élire un député, un maire ou un président de la République, c'est un peu dommage.
Et les LR viennent de désigner leur candidat par vote électronique, donc c'est possible. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
Et donc la proposition de loi est examinée demain pour ce qui concerne la proposition de loi socialiste. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Dubic.
À suivre dans le 13-14, vous faites la chronique cinéma vous aussi ?
Bah oui, c'est le journal d'Anne Frank qui est projeté dans le présent avec un film d'Harry Folman.
À tout à l'heure, avant cela, il y aura le feuilleton Nos 5 Français dans la campagne. Aujourd'hui, l'agriculteur David qui se revendique de droite. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Ce 8 décembre est jour de fête pour les bouddhistes. C'est le Bodhi Day en anglais qui commémore l'illumination de Bouddha sous un figuier après 7 jours et 7 nuits de méditation. Et pour l'occasion, vous avez rencontré un expert en méditation, le moine bouddhiste Mathieu Ricard.
Il est également photographe, Mathieu Ricard, et auteur de très nombreux livres. Le dernier, ce sont ses carnets d'un moine errant, près de 800 pages, dans lesquels il raconte sa vie, ses voyages et ce que lui ont appris ses maîtres spirituels. Ce livre, ce sont ses mémoires, tout simplement.
Si vous avez vécu pendant 30 ans auprès de Socrate, vous avez beaucoup de choses à raconter. Et c'est un peu ça, mon livre. Ouais. Enfin, c'est un témoignage des personnes qui ont inspiré ma vie, qui ont donné un sens, une direction. Et je voulais pas que ça disparaisse avec mon cerveau. Je suis allé 20 fois au Tibet, 50 ans dans l'Himalaya, j'ai vécu 7 ans avec un sage, 13 ans avec un autre, j'ai vu la cohérence parfaite de ces personnes. Le messager était le message, j'ai jamais vu une pensée, une parole, un acte qui puisse nuire à quelqu'un. Donc cette cohérence, elle a inspiré toute ma vie, donc je voulais témoigner de cela. Saga Birutana Yuhai Rajaya Tathagataya Arahade Samyak Sambuddhaya Namoy Sarvantathangate Bhya Arahade Bhya Samyak Sambuddhe Bhya Namo Arya Avalokete Shvaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya.
Mais à qui appartient cette voix qu'on entend, Frédéric? Cette voix qu'a choisi de nous faire écouter Mathieu Ricard.
Cette voix, c'est celle d'une femme de 50 ans. Elle s'appelle Annie Choing.
Annie Choing est une nonne tibétaine qui vit au Népal et qui est très connue au Népal. On l'appelle The Voice, la voix. Et elle chante le mantra du Bouddha de la compassion, Avalokiteshvara, dont le cœur déborde de compassion pour tous les êtres.
Elle nous raconte quoi concrètement?
Alors le mantra, c'est Om Mani Padme Hum. Et ça veut dire joyau dans le lotus. Le joyau, c'est la compassion. Le lotus, c'est la nature de Bouddha qui est immaculée. Et donc, puisse cette compassion apporter du bien à tous les êtres, sans exception, y compris tous les êtres sensibles que sont les 8 millions d'espèces d'animaux qui sont nos concitoyens en ce monde.
Alors on dit chant, on dit chanson,
c'est une chanson? Non, c'est un mantra. Alors on peut le réciter, Om Mani Padme Hum, comme ça, comme des gens réciteraient la prière de Jésus ou autre chose. Un mantra, c'est quelque chose qui protège l'esprit et qui met l'esprit dans un état contemplatif et après, ça permet de poursuivre ce chemin de contemplation. Mais aussi, on peut le chanter sur une mélodie pour s'inspirer pendant quelques minutes dans nos pratiques quotidiennes de méditation, quand je me promène dans la forêt. Mais j'ai pas une bonne voix. Comme dit ma mère, Mathieu chante comme un âne.
Ça n'empêche pas de fredonner.
Exactement.
Nos auditeurs vont entendre ce mantra.
Oui.
Qu'est-ce
qu'il va provoquer, de votre point de vue ?
Du point de vue purement tibétain, c'est quelque chose qui libère par l'ouïe, par l'écoute. Libéré de quoi ? Des poisons mentaux que sont la haine, l'avidité, le manque de discernement, la jalousie et l'orgueil. Donc c'est l'idée que ça ouvre votre esprit et ça le libère du carcan de tout ce qui est finalement cause de souffrance. Alors ce n'est qu'un élément, mais il faut bien rajouter les éléments les uns après les autres et pris dans leur ensemble, on finit par y arriver.
Donc là on fait du bien.
Voilà. Et vous pouvez dédier ça au bonheur de tous les êtres.
Le mantra du Bouddha de la compassion par la nonne tibétaine Annie Choying, c'était donc Frédéric, le choix de Mathieu Ricard.
Le merveilleux Mathieu Ricard qui vient donc de publier ses mémoires, Carnet d'un moine errant, c'est publié chez Alary Éditions.
À demain Frédéric.
À demain.
Notre feuilleton 5 français dans la campagne, après avoir entendu deux électeurs désabusés, Simon qui s'apprête à voter blanc à la présidentielle, Marie-Claudine dépitée par l'incapacité de la gauche à s'unir, un homme plutôt content de son sort en ce début de campagne. Il s'appelle David, il est agriculteur dans les Yvelines, il se revendique de droite et à la primaire chez les LR, eh ben il a fait le bon choix, il le dit à Élodie Forêt.
La dernière fois qu'on s'est vu, donc c'était au début de la campagne, vous m'aviez expliqué que vous, traditionnellement, vous votiez à droite et que vous aviez une petite préférence pour Valérie Pécresse. Et là ?
La chance, je ne sais pas, mais je suis plutôt très content de ce qui s'est passé du coup aux élections des Républicains. J'étais assez surpris du résultat, parce que je pensais vraiment que ce serait Xavier Bertrand qui passerait. La surprise pour moi, c'était de voir Éric Ciotti au deuxième tour, qui est quand même assez extrême, hein, je trouve, dans ses propos et dans ses idées. Donc je pense que la France, ou les militants en tout cas, ont besoin que la droite se droitise.
Valérie Pécresse, elle va devoir faire avec ça. Vous, qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce que ça vous inquiète un peu, justement, sur cette ligne qu'elle va devoir tenir ?
Non, ça ne m'inquiète pas, parce que je la sens déjà très capable d'allier tout le monde. Et justement, elle, qui est plutôt modérée, saura justement modérer les propos et les actions, même si elle devra composer avec Éric Ciotti. Mais je pense que ça devrait bien le faire. Ce qui me plaît aussi dans ses propos, c'est qu'en fait, elle propose des solutions et comment les financer. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de distribuer de l'argent public, mais on va arrêter d'endetter nos enfants sur X générations.
Quand elle dit qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse, vous êtes plutôt d'accord avec ça ?
Ah ben, je suis complètement d'accord, oui. On voit bien, Emmanuel Macron, il distribue de l'argent, on sait d'où il vient, hein, c'est de la dette française. Donc voilà, mais on ne fait pas d'économie à côté pour payer ces choses-là. Donc oui, il a cramé la caisse, c'est évident, quoi.
Emmanuel Macron va être probablement candidat, Marine Le Pen, Éric Zemmour maintenant officiellement candidat. Est-ce que vous avez un réel espoir pour Valérie Pécresse qu'elle arrive à faire son chemin au milieu de tous ces gens ?
Alors déjà, c'est une femme, mais donc moi je pense que ça va faire du bien un peu à la politique de voir d'autres personnes arriver, notamment des femmes. Et oui, je la sens capable de faire son trou, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas grand-chose en face d'Emmanuel Macron. Alors bon, oui, Éric Zemmour, je pense que c'est plus un feu de paille qu'autre chose, mais il joue sur les terres de Marine Le Pen. Donc je pense que la droite va se rassembler et on arrivera à battre Emmanuel Macron.
Vous pensez qu'Éric Zemmour, c'est un feu de paille parce qu'il a quand même une percée sondagière que personne n'attendait vraiment.
Bah, comme Macron quand il s'est présenté il y a 5 ans, mais vu les idées, enfin je sais pas, j'espère que les Français vont se réveiller quand même, mais on peut pas voter pour quelqu'un comme ça aujourd'hui, enfin c'est trop extrême. On va pas se renfermer sur nous-mêmes alors qu'aujourd'hui on a besoin des autres pour vivre. Ouais, c'est un peu bien.
On est dans votre 4x4, on arrive...
On arrive sur le site de mon associé, donc on a le site de méthanisation qui est là.
Là, ça fait combien d'années que vous y travaillez à ce...
Ça fait un an. En fait, c'est une vache géante. Voilà, on va mettre 30 tonnes d'aliments qui va être envoyée dans une première cuve avec un mélange d'eau et en anaérobie, donc sans oxygène. Et donc sans oxygène, il y a des bactéries qui se développent, qui grignotent la matière et qui produisent du gaz. Et après, il va être épuré et donc envoyé directement dans le circuit de consommation de gaz de ville.
La question de la souveraineté énergétique, ça vous, c'est un, quelque chose qui vous préoccupe ?
Oui, c'est un truc qui m'intéresse parce qu'aujourd'hui, on est quand même très dépendant du pétrole et du gaz, hein, notamment. Hein, donc voilà, développer des unités pour alimenter en électricité et en énergie les Français, je pense que c'est bien. C'est un sujet qui doit être sur la table, notamment en plus avec les périodes Covid qu'on a connues. On voit bien que les échanges internationaux, au bout d'un moment, avec des périodes de pandémie, y a moins de bateaux, il y a moins de matières, il y a moins de marchandises qui arrivent, voire plus du tout. Donc il faut peut-être se poser la question de produire chez soi et à côté de chez soi, quoi.
L'agriculteur David avec Élodie Forêt, l'un de nos 5 Français dans la campagne. Demain, nous serons avec Camille qui a 47 ans et qui est écolo.
France Inter, le 13-14.
Encore un peu de cinéma après la chronique de Corinne Pellissier, Jean Lebrun. Dans le vif de l'histoire, on parle d'Anne Frank aujourd'hui. Il y a ce film d'animation qui sort ce mercredi, Où est Anne Frank, signé de l'Israélien Harry Folman. Et puis chez Kalman Levy, l'éditeur historique du journal d'Anne Frank en français, un roman graphique. Anne Frank revient en pleine lumière, Jean.
Le journal est moins lu, mais l'histoire de la famille Frank demeure bien connue. Le programme antisémite d'Hitler l'a fait quitter l'Allemagne dès 1933. Elle parvient à vivre paisiblement à Amsterdam pendant quelques années. Ses enfants, à commencer par la jeune Anne, aspirant à devenir néerlandais. En mai 1940, les Pays-Bas sont envahis. En juillet 1942, Otto Frank, le père, décide d'anticiper les mesures d'internement qui menacent sa fille aînée et il transfère son petit monde dans un appartement sous les combles à l'arrière des bureaux de son entreprise. L'annexe abritera aussi une autre famille, ils seront 7, plus tard 8, à devoir survivre sans guerre d'intimité, assaillis par les cauchemars, les alertes bien réelles, les difficultés de ravitaillement, les bombardements qui sont vécus à travers les fenêtres occultées.
Et peu avant le passage à la clandestinité, Anne avait, en juin 42, commencé la rédaction d'un journal.
Alors on a pris l'habitude de le nommer version A. En mars 44, Anne entend sur les ondes de Radio Orange, la radio du gouvernement néerlandais en exil à Londres, un appel d'un ministre de la Reine, Wilhelmine, recommandant de conserver tout ce qui s'écrit pendant et sur la guerre. Elle commence à réorganiser ses textes. On peut soutenir qu'elle devient écrivaine à 15 ans à peine. C'est la version B de sa chronique de la vie de l'annexe, laquelle est interrompue par l'arrestation en juillet 44. Au retour de déportation, le père Otto retrouve ce corpus conservé par sa secrétaire, inachevé, mutilé, puisque manquent plusieurs cahiers qui ont disparu. Il en fait la version C, l'œuvre qu'il veut conforme aux vœux de sa fille, mais ramassée et purgée de certains passages où Anne parlait objectivement de sa sexualité et subjectivement des adultes de l'annexe qui lui rabattaient trop vite le caquet. Otto, lui, était toujours à l'écoute de sa fille. Il lui avait recommandé « Tu as une force, ton imagination, certain pour désarmer tes peurs. » Anne a donc écrit aussi des contes, noirci des feuilles volantes, tenu registre des citations qu'elle cueillait dans ses lectures. Après la mort d'Otto, les instituts qui ont hérité de lui ont fait de tous ces matériaux, en 86, une édition critique titrée « Les journaux d'Anne Frank ». Et d'un petit livre vendu à des dizaines de millions d'exemplaires, on est venu à un fort volume qui attestait de l'authenticité des textes, mais qui, avec ses 750 pages, devenait, comment dire, dissuasif.
Alors que le film et le roman graphique d'aujourd'hui, quoi qu'on en pense, font retrouver la force de l'objet initial, le choc qu'il peut provoquer.
Alors à l'origine, au temps de la version A, Anne avait destiné son texte à une amie imaginaire à qui elle avait donné le nom de Kitty. « Je t'ai inventé. Tu n'existes que dans ma tête », lui disait Anne. Harry Folman fait de Kitty le personnage numéro 1 et à son tour la modèle comme il l'entend. Il la fait vivre aujourd'hui, au temps des vagues migratoires qui viennent battre les frontières européennes. Il lui confère un don d'invisibilité et lui fait dérober un cahier fétichisé du journal dans le musée Anne Frank d'Amsterdam. Cathy prévient la police, elle ne le rendra qu'une fois que les réfugiés parvenus aux Pays-Bas pourront sortir de la clandestinité et trouver un logis digne. Alors la Croix aujourd'hui écrit « Le parallèle entre hier et aujourd'hui peut paraître pesant ». Mais Kitty, en somme, elle parle comme le pape François. En Grèce, nous pleurons sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre, mais nous sommes maintenant à deux doigts de tirer sur les migrants qui se pressent aux frontières de l'Europe.
Quand on avance dans la lecture du journal, Jean, le cœur se serre parce qu'on sait que Anne va disparaître.
Alors dans le film, dans le roman graphique, Kitty, qu'Anne a inventé, brûle de la sauver, mais comment faire? Les deux jeunes filles ne vivent pas dans le même temps. Reste la leçon d'Otto, quand il expliquait aux clandestins de l'annexe qu'il fallait tenter de faire une place à un nouveau venu. Faites ce qui est entre votre pouvoir pour sauver ne serait-ce qu'une vie. Et alors, un propos qui est toujours applicable aujourd'hui, et c'est mieux que d'entendre dire bah, laissez-les mourir de froid à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne.
Le roman graphique d'Harry Folman avec Lena Guberman sort chez Kalman Levy et le film est projeté en salle à partir de mercredi. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Dites-moi donc, quel est le programme de La Terre au Carré
aujourd'hui? Eh bien,
aujourd'hui
nous allons nous intéresser aux coquilles de mollusques.
Ah ben, c'est noté tout de suite.